toutes et à tous, bienvenue sur le 101.5 de Radio G. Nous sommes le lundi 6 avril, il est 19h et comme tous les lundis, c'est l'heure de la case de Seb. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 101.5 de Radio G. C'est une émission encore enregistrée depuis mon petit chez moi. Un confinement oblige. J'espère que vous êtes toujours respectueux un petit peu de ces règles de confinement. J'imagine que ça doit être un petit peu dur, mais avec un peu de bonne volonté, un peu de lecture, ça peut ne permettre que de se terminer rapidement et pour le bien de tout le monde. J'en profite pour souhaiter un petit bisou à mes collègues, à Anthony, Tony, Yamina, Bertrand. Et tous ceux qui nous connaissent, ainsi qu'à vous, tous nos auditeurs. On va commencer cette émission avec quelques news, et puis un carnet noir bien rempli, comme vous allez pouvoir le constater. La semaine dernière, nous évoquions le décès du Derzo. Il n'est pas sans oublier d'autres grands noms de la BD qui nous ont quittés courant mars. Je vais faire assez rapide. Hein. On a l'illustrateur et dessinateur René Follet qui est décédé le 14 mars. Hein. On lui devait pour ses derniers albums un trio avec Emmanuel Lepage et Sophie Michel pour les Voyages d'Ulysse et puis le Voyage de Jules qui est sorti en 2019. Nous avions également le dessinateur et coloriste Erwin Drez, décédé le 18 mars. Il collaborait avec Jacques Martin sur Le Franc et puis sur les Voyages d'Elix, publié aux éditions Casterman. Le 19 mars, c'est le dessinateur François Dermeau qui nous quittait, connu pour avoir co-réalisé avec Daniel Bardet la série historique Les Chemins de Malfos, qui ont été publiés aux éditions Glénat. Et puis, très récemment, le 3 mars, c'est le dessinateur Juan Guimenez, principalement connu pour La Caste des Métabarons, qui nous quittait. Je dirais ciao les artistes, hein, je vois pas quoi dire de plus. Ce sont de grands noms de la BD qui nous quittent et qui malheureusement ne seront pas remplacés tellement ils ont su impacter par leurs œuvres et par leur talent de nombreux lecteurs et de nombreux auteurs. Alors pas mal de nouveautés en ce début de mois d'avril, puisqu'on a eu pas mal d'annonces sur des adaptations en série live ou en série animée. La première pour ce mois-ci en fait au Japon, il s'agit d'Arte, alors pas la chaîne franco-allemande, mais le manga paru chez Komiku qui raconte l'histoire d'une jeune femme à Florence au XVIe siècle qui est déterminée à devenir artiste peintre dans un milieu où les femmes sont pourtant très très peu considérées. Un manga très très beau devrait franchement être agréable à regarder et au moins extrêmement intéressant à suivre. Je n'ai pas le détail pour savoir qui sur quelle chaîne ni quel éditeur, si c'est sur Tokyo MX. Et ça va arriver, normalement ça a dû déjà sortir au moment où je vous parle, le premier épisode a dû déjà être disponible. Également, une annonce de l'adaptation de L'Homme qui marche de Jiro Taniguchi. Alors si vous ne connaissez pas Jiro Taniguchi, je vous invite à aller consulter un petit peu le catalogue de Casterman pour pouvoir découvrir ce grand monsieur du manga. Du coup, L'Homme qui marche, c'est quelque chose d'assez simple et de franchement très agréable à suivre. Et on a une série qui devrait être diffusée à partir du 5 avril, donc la semaine dernière par rapport au moment où je vous parle, au Japon. Et ça devrait y avoir un épisode proposé le premier dimanche de chaque mois. Et là encore, je n'ai pas la chaîne sur laquelle ça va être adapté. Par contre, ce sera une adaptation live, hein, pas un manga. Donc ce sera... comme le trait de Taniguchi était un trait extrêmement réaliste, je pense que ça peut valoir le coup pour pouvoir comparer un petit peu les deux œuvres, en espérant que l'adaptation soit fidèle. Une annonce qui avait fait un petit peu fureur, puisque il y aura sur la chaîne TNT la diffusion du premier épisode du transpersonnaire, genre Snowpiercer en américain, qui sera diffusé le 31 mai aux États-Unis. Et là, il n'y a pas de retard dû à plein de lancements, puisque l'épisode va arriver quasiment deux semaines plus tôt que prévu. Donc pourquoi pas, en tout cas moi j'attends, le film avait été plutôt intéressant et pourquoi pas voir cette nouvelle adaptation remise au goût du jour, une série live action qui devrait être plutôt intéressante. Je rappelle les références de la BD d'origine, ça pourrait vous intéresser au moins d'aller la voir. C'était dessiné par Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette et c'était aux éditions Casterman. Autre nouvelle, la sortie prochaine, il va falloir attendre encore un petit peu, mais en 2021 du dernier arc en animé de la série Bleach pour fêter les 20 ans du manga. Il faut savoir que la série d'animation n'allait pas jusqu'au bout du manga en lui-même et le Weekly Shonen Jump a annoncé en fait la sortie l'année prochaine d'une dernière arc de la série. Il faut savoir qu'il y aura également une adaptation en animé du one shot Burn the Witch qui est prévue, et du coup ça devrait être assez intéressant. C'est l'occasion pour vous de redécouvrir cette série culte, ce manga qui avait beaucoup marqué à l'époque, qui a été publié aux éditions Glénat. C'est l'occasion de redécouvrir le travail de Tite Kubo avec l'histoire de cet adolescent qui se retrouve propulsé dans le monde des Shinigami, des porteurs de mort, avec toute la hiérarchie et tous les problèmes qui peuvent y aller. Ce shonen était plutôt péchu et du coup ça plaisait plutôt pas mal, avec pas mal d'inventivité. N'hésitez pas à aller le découvrir. Une autre nouveauté également, alors la série Netflix semble avoir bien fonctionné pour The Witcher, il faut savoir qu'il existe une nouvelle série de mini-comics qui va être publiée à partir du 17 juin prochain par Dark Horse. Alors c'est estampillé CD Projekt Red sur la couverture, donc ça veut dire que c'est approuvé et que ça fait la continuité des jeux vidéo contrairement à la série. Et ça devrait être plutôt intéressant. Graphiquement, ça a l'air d'être plutôt sympa. Je n'ai pas le nom des personnes qui sont porteurs de ce projet. Et ça devrait être très sympa. Ah si, effectivement, j'ai le nom des personnes. C'est une mini-série qui sera signée par Bartosz Zibor. Alors, je suis sûr que j'écorche son nom, avec Adam Mir au dessin. Et ça devrait être franchement sympa. Ça se passe comme d'habitude, les comics The Witcher seront repris en France par Urban Comics. Une dernière petite news, si vous ne savez pas quoi faire et que vous vous ennuyez chez vous, il faut savoir qu'il y a, il me semble que c'est Pénélope Bagieu qui a mis en place quelque chose qui s'appelle la Corona Maison. C'est un concept assez simple. C'est un cadre avec un escalier qui représente une pièce de maison. Et c'est à vous de destiner ce qui est votre quotidien et l'intérieur de votre maison, et de le faire suivre pour pouvoir le publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag Corona Maison. Et maintenant, il existe un site qui s'appelle Corona Maison. Fun qui recense tous les dessins pour pouvoir suivre cette espèce de cadavre exquis de bande dessinée. C'est un immeuble complet, et du coup c'est vraiment vraiment sympathique. Tout le monde a différents talents, et du coup ça donne quelque chose d'assez original à découvrir. Je redonne l'adresse du site coronamaison.fun. Vous pouvez télécharger la page, profitez-en pendant que vous êtes confiné. Même si vous n'êtes pas très bon en dessin, on s'en fiche. Le but, c'est d'arriver à faire quelque chose de collaboratif et qui nous représente dans notre quotidien dans cette période un petit peu difficile. On va commencer cette émission avec une, enfin, on va continuer cette émission avec une chronique réalisée par une guest dans cette émission. Il s'agit de ma fille Garance, une guest qui est quand même chez elle, et elle va vous présenter une lecture qui lui a beaucoup plu dernièrement. Il s'agit de Sacrée Sorcière de Pénélope Bagieu, adaptée de Roald Dahl aux éditions Gallimard.
Cet homme, un petit garçon qui est en grandes vacances avec sa mamie. Dans un hôtel, il va dans une pièce pour nourrir ses souris. Et cette pièce, elle était interdite. Il est entré, il s'est caché. Puis ensuite, il y a eu que des dames qui sont venues dans l'hôtel, qui sont venues dans cette pièce. Et ensuite, il y a eu la reine des sorcières qui a enlevé son masque, et toutes les autres, elles ont enlevé leurs chaussures, leurs perruques et leurs gants, parce qu'elles ont des points dans les cheveux, elles ont des pieds, pliés, et elles ont des mains toujours frissonnées en zigzag, des griffes. C'est une salle où toutes les sorcières se réunissent pour de temps en temps enlever leur masque. Le plan de la sorcière, c'est de transformer tous les enfants en souris. Elle est sur une scène et elle montre un produit chimique. Et elle a fait un exemple avec une petite fille. La petite fille a bu le produit chimique et s'est transformée en souris. La petite fille, elle était sur la scène avec la reine, avec les autres sorcières, et elle a dit « Avale ça, c'est bon pour la santé, ça te fera reprendre des forces. » Alors elle a bu et elle s'est transformée en souris. Ensuite, Tom, il a fait bouger le truc où il était cassé derrière. Et donc du coup, la reine, elle l'a repéré, les autres aussi. Alors les autres, ils l'ont pris par la main, ils l'ont amené à la reine, et il a bu ça. En souris, il était une souris, alors il est allé discrètement dans la cuisine. Sur l'étagère, il a vu qu'il y avait des produits chimiques, alors il en a fait tomber un dans la soupe en le versant. Et comme ça, les sorcières, elles ont bu et elles se sont transformées en souris. On voit bien que ça commence à se transformer en souris. Image par image, on voit que ça commence à aller plus en plus de souris. J'aime bien la couleur du dessin. Il est forcément trop joli pour moi, alors j'adore ce livre. C'était impressionnant d'avoir beaucoup de pages, mais j'ai réussi à le lire. Pas trop difficile, j'adorais ça. Tout est bien qui finit bien.
C'était ma fille Garance qui vous parlait de Sacrée Sorcière de Pénélope Bagieux, adapté de Roald Dahl aux éditions Gallimard. On se retrouve après une courte pause musicale avec LSD, Thunder Clouds. Alors LSD, c'est un groupe que je ne connaissais pas il y a peu. C'est un groupe assez récent. C'est Labyrinth, Sia et Diplo qui ont fondé ce groupe. Et ça donne des choses vraiment sympas. On se retrouve sur le 101.5 de Radio G. Vous écoutiez LSD Thunder Clouds. N'hésitez pas à écouter les autres morceaux du groupe, c'est plutôt sympa. C'est un trio qui s'est assemblé et c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Pour cette première chronique de ma part, je voudrais vous parler d'une nouvelle collection aux éditions Glénat. Il s'agit des Nouvelles Routes du Soi. Alors, je n'ai pas fait de faute de prononciation, c'est bien du soi, puisqu'il s'agit de s'explorer soi, de découvrir de nouvelles méthodes de penser et de voir comment on peut, en changeant quelques petites choses vis-à-vis de soi, apprendre à changer des choses sur notre quotidien et notre vie. C'est une collection qui est supervisée ou dirigée par Denis Marquet, qui est un philosophe, et qui, à la fin de chaque récit, va apporter des éclairages complémentaires en fonction des sujets. Le but, c'est vraiment de prendre de nouvelles connaissances sur des thèmes de développement personnel. Ce sont des choses qui sont plutôt intéressantes, surtout dans ces temps où on a besoin d'avoir un petit recul sur soi et où on peut profiter d'un peu de temps pour se recentrer et redécouvrir sa propre conception du monde. Il y a deux albums hein, pour l'instant dans cette collection. Il y a La mécanique du don, donner c'est recevoir, scénarisé par Jean-Édouard Grésy et dessiné par Salvatore Porcaro. Et puis il y a Apprendre à maîtriser son destin, je recommence. Il y a aussi Apprendre à maîtriser son destin, mémoire vive, sur un scénario de Macchio et dessiné par Riccardo Labella et Massimiliano Leomax. Les deux albums sont très différents. Hein. Dans le premier, on suit l'histoire d'un jeune homme très investi dans sa vie, jeune cadre dynamique, commercial, dont le but est de vendre au maximum des choses et puis de contrôler et diriger un petit peu tout. Il a une vie un petit peu... faite d'abus dans tous les sens du terme. Et puis il y a son frère qui lui aussi a une vie d'abus, mais la sienne est beaucoup moins réussie. Il a plongé petit à petit dans la drogue et les deux frères se sont séparés puis perdus de vue. Et soudain l'un va avoir besoin de l'autre puisque suite à un problème médical, il va avoir besoin d'un don d'organes. Et la seule personne vraiment compatible va être son frère, je vous laisse deviner, vu que les deux frères ne se supportent pas du tout ce que l'un va dire à l'autre et comment ça va se dérouler. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la structure et comment simplement... En donnant quelque chose à quelqu'un, on peut arriver à changer une situation sans forcément... je vais paraphraser l'ami Pascal Obispo. Non, c'était Florent Pagny d'ailleurs. Donner sans attendre et ne rien faire que prendre. Et c'est vraiment ce contexte-là qui va déterminer ce que l'on peut... recevoir sans avoir redemandé de la part des autres. Au niveau dessin, alors je veux pas, c'est pas que je n'aime pas ce dessin, mais j'ai l'impression que c'est un travail fait principalement par photo. J'ai parfois l'impression de revoir certaines images de films. Alors ça donne un aspect un petit peu roman photo qui est pas toujours très très parlant, qui distancie un petit peu du récit et qui n'aide pas à s'immerger vraiment dedans, même si l'histoire globalement est assez intéressante, même si une histoire de famille qui se déchire, c'est souvent un petit peu compliqué. Et puis, pour finir le récit, on a quatre pages en fait par le philosophe Denis Marquet qui développe un petit peu cette thématique et qui explique un peu en seconde lecture ce qu'on doit pouvoir comprendre et attendre de ce genre de récit et ce qu'on peut faire pour aller un petit peu dans ce sens-là. Et le deuxième album qui m'a déjà beaucoup plus, on va dire, marqué, on suit l'histoire d'une jeune femme, une romancière, qui a eu un premier succès d'édition et qui fait un blocage, en fait, sur son deuxième roman. Et puis, un jour, alors qu'elle se rendait chez son éditeur, elle va sauver une vieille dame qui faisait un malaise sur le côté. Et pour la remercier, le fils de cette vieille dame va lui donner un numéro en lui disant écoutez, le jour où vous avez un besoin, composez ce numéro-là et de l'autre côté, il y aura une personne qui va pouvoir vous aider. Un petit peu surprise, la jeune femme va finir par composer ce numéro pour essayer de comprendre ce que c'est, puis se dire que effectivement, un petit peu d'aide n'est jamais malvenue. Et puis, de l'autre côté, il y a une femme qui va commencer à faire une sorte de... on va pas dire de psychanalyse, mais lui poser des questions. sans vouloir décliner son identité. Et puis, l'héroïne va petit à petit se rendre compte que sa vie est en train de changer, que les événements commencent à lui sourire un peu plus. Et sa mémoire, les événements de son enfance vont commencer à lui revenir petit à petit, offrant un éclairage sur la disparition de sa maman de manière un petit peu différente de ce que ses souvenirs pouvaient lui rappeler. Et ça lui permet de débloquer sa vie et sa façon de voir les choses différemment. Quand son frère vient lui demander un service, elle n'hésite absolument pas à le refuser. Alors, c'est un petit peu une thématique qui revient dans les deux albums. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais les conflits familiaux sont un petit peu au cœur des deux albums. Et du coup, les choses vont finir par s'arranger d'une manière un petit peu presque surnaturelle. Et l'album permet également de... l'album pose également un cadre un petit peu surnaturel qui accroche la partie lecture et qui permet de se poser des questions un petit peu sur ce qui nous entoure et comment le monde se déroule alors qu'on n'y comprend pas vraiment, même si on essaye de lever le voile sur plein de petites choses. C'est une espèce de petite l'ordre du monde reste quand même extrêmement mystérieux pour nous qui sommes en plein cœur, et c'est ce côté un petit peu mystique qui fonctionne bien et qui donne un côté très agréable. Au niveau dessin, on a principalement trois couleurs, hein, du blanc, du gris et du noir, mais qui permettent de jeter un regard assez intéressant sur les protagonistes. On a une identification qui est beaucoup plus forte, hein, on n'a pas cette impression roman photo qu'on pouvait avoir sur l'album précédent. On se retrouve à avoir parfois des cadrages intéressants, des personnages qui ont un côté assez charismatique et qui est vraiment assez agréable. Et il y a vraiment une espèce d'alchimie qui fonctionne entre le récit et les couleurs choisies qui font que ça marche très très bien. Là on est sur un récit qui est un petit peu plus dense et plus long que le précédent. Toujours on finit par 4 pages d'explications par le philosophe, thérapeute et romancier Denis Marquet, et ça fait du bien en fait de comprendre un petit peu ce qu'on a lu et puis ce qu'on aurait dû en attendre pour pouvoir analyser un petit peu plus notre lecture et pousser un petit peu plus loin ce qu'il en est. Je redonne les différentes références. Deux albums qui sont dans la collection Les Nouvelles Routes du Soi aux éditions Glénat. Le premier, c'est Donner, c'est Recevoir, sous-titré La Mécanique du Don, et c'est scénarisé par Jean-Édouard Grézy et dessiné par Salvatore Porcaro. Et le deuxième, c'est Apprendre à maîtriser son destin, sous-titré Mémoire vive. C'est un scénario de Macchio et dessiné par Riccardo Labella et Massimiliano Leomax. C'est aux éditions Glénat. Chaque tome est au tarif respectif de 16 et 22 euros. Et ce soir, j'ai également le plaisir d'avoir sollicité mon épouse, Charlène, pour vous parler d'un manga et d'un film d'animation qu'elle a vu il y a peu de temps.
Donc je suis ici ce soir, déjà parce que j'ai pas le choix, je suis chez moi, pour vous parler du Mystère des Pingouins, paru aux éditions Nobinobi, en 3 tomes, série complète en 3 tomes, de Tomihiko Morinui et Keito Yano. Il s'agit de l'adaptation en manga d'un roman de Tomihiko Morinui, paru en 2010 et déjà adapté pour la télévision en film d'animation en 2018 au Japon. Donc laissez-moi vous présenter Aoyama, un jeune homme très intelligent et très conscient de l'être. Il a hâte d'être adulte, il a fait ses calculs et il lui reste 3888 jours au début de cette aventure pour atteindre l'âge adulte. Et à ce moment-là, il compte bien épouser celle qu'il aime. L'assistante dentaire. Elle est belle, elle est rigolote. Il s'entend tellement bien avec elle, elle lui apprend même à jouer aux échecs. En attendant d'être adulte, il a bien l'intention de profiter de chaque instant pour devenir encore plus érudit. Et il mène ses petites enquêtes. Par exemple, il a son projet Amazonie, qu'il mène avec son copain Uchida, ou encore l'étude de l'assistante dentaire et de ses beaux seins. Oui, c'est un petit garçon qui s'aime beaucoup devant les poitrines féminines. Mais pas trop, c'est pas lourd. Il n'y a pas de fanservice. Ça passe bien. Donc il note toutes ses petites recherches dans ses carnets rouges, qu'il a toujours sur lui. Et un matin, en se rendant à l'école, Aoyama va être témoin d'un événement pour le moins surprenant. Une invasion de manchots. Oui, bon, alors pour simplifier la communication avec ses semblables, il accepte de les appeler des pingouins, vu qu'ils insistent tous pour appeler ça des pingouins. Même si lui, au premier coup d'œil, il a vu que c'était des manchots, mais bon, il se range à la vie générale, tant pis, c'est comme ça. Ceci dit, le mystère des manchots, ça n'est pas pareil. Ces mystérieux pingouins, donc, vont être emmenés en camion vers le zoo le plus proche, où on va prendre soin d'eux. Sauf que voilà, en cours de route, ils disparaissent dans le camion, mystérieusement, sans laisser de traces. Aoyama va alors ouvrir une nouvelle enquête, dans un nouveau petit carnet. Et très vite, il va découvrir que celle qui crée les pingouins n'est autre que l'assistante dentaire. Il va donc en profiter pour l'associer à ses recherches, et elle va se prêter de bon cœur à toutes ses expériences. Elle va l'inciter même à résoudre son mystère. Elle va partager volontiers avec lui ses humeurs du moment. Il va se rendre compte d'ailleurs que c'est très lié, l'apparition de ces pingouins est très liée aux humeurs de cette fameuse assistante dentaire. Et il va découvrir que plusieurs autres mystères sont tous liés et qu'elle est au centre de tous les événements qui se déroulent dans cette petite ville. Ce qui la rend encore plus énigmatique. D'ailleurs, parlant d'énigmes, on notera que jamais on ne nous donne son nom. Elle n'a pas de nom, c'est l'assistante dentaire. À aucun moment on nous dit comment elle s'appelle. Bref, un petit shonen tout à fait classique, mais très sympathique. Les personnages sont un peu stéréotypés. On a les petits intellectuels qui se font un peu brusquer par le grand costaud pas très très malin, qui finit par les aider à la fin, sans vous spoiler. Excusez-moi. Sans spoil. No spoil. Donc c'est très plaisant. Le dessin est très joli, passe très bien. Sans fioritures, je vous dis pas de fanservice. Elle a dessin, mais on n'en fait pas tout un plat. Même si ça crée la jalousie de Hamamoto. Hamamoto, c'est une copine de classe. Elle est aussi très intelligente. Elle aussi, elle fait des recherches. Mais elle n'a pas de sang. C'est pas de bol. Donc, un shonen très sympathique. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime bien la façon dont le petit Aoyama mène ses enquêtes. Il se pose des questions vraiment pertinentes. Il a vraiment un chemin, une réflexion scientifique. Son papa le conseille beaucoup, d'ailleurs. Il lui donne des petites astuces. Il lui dit, écoute, quand tu coinces sur un problème, note tout ce que tu as trouvé. Note tous ces petits éléments. Et à un moment, ça, tu vas avoir le déclic. Donc oui, son papa lui donne l'aide à trouver des pistes, à se poser les bonnes questions. Pour essayer de résoudre toutes ces petites enquêtes, toutes ces petites énigmes. Et on sent que ce petit a un esprit très cartésien et qu'il va réussir à mener, il va noter toutes ses courbes, il va comparer toutes ses notes, toutes ses... Et non, c'est assez intéressant comme, de voir la façon dont ce jeune homme arrive à résoudre toutes ses enquêtes, à enquêter, je ne trouve plus le mot. C'était donc le mystère des pingouins. D'édition Nobi Nobi, paru en 3 tomes, donc série complète, de Tomihiko Morimi et Keito Yano. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd live?
just not to fall apart. I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'était Cake à Will Survive, c'est toujours la case de Seb, et on est reparti pour de nouvelles chroniques. Une nouvelle double chronique, qui va parler un petit peu de sorcellerie, ou au moins de surnaturel, avec des thématiques assez proches. Je vais commencer avec l'album le plus ancien, sorti en 2018 aux éditions Glénat. Il s'agit de l'omnibus d'Exd. Je le prononce très très mal, mon épouse va encore me taper dessus. C'est scénarisé par Michael Alan Nelson et dessiné par Emma Rios et Dan Mora. Alors des gens qui vous connaissez certainement, puisque Emma Rios a dessiné Pretty Deadly, et Dan Mora avait dessiné le fabuleux Klaus, une réinterprétation du mythe du Père Noël, et c'était vraiment sublime en termes de dessin. De quoi ça parle? En fait, ça parle de Lucifer. Alors attention, moi, j'ai parlé de mysticisme, j'ai pas parlé de mythologie non plus. Lucifer, c'est Lucy Jennifer Ignacio Das Neves. Lucifer, pour faire plus court. Et Lucifer est donc une voleuse d'artefacts magiques, plutôt talentueuse puisqu'elle est capable de passer inaperçue et d'aller dévaliser les coffres-forts, même bardés des protections magiques les plus importantes. Elle travaille pour Val, son commanditaire, qui la met en relation avec d'autres acheteurs, voire lui commande elle-même des artefacts pour les mettre en sécurité loin des mains baladeuses et souvent inexpérimentées d'autres usagers occultes. Au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir que Lucifer a une malédiction, le ex du titre, et que cette malédiction la lie très fortement à un personnage occulte extrêmement important, autour duquel beaucoup de choses vont s'articuler. Alors je vais pas vous raconter toute l'histoire parce que ce serait dommage un petit peu de vous gâcher le récit, mais c'est vraiment très intéressant. C'est un comics qui fait la part belle aux personnages féminins. Les personnages masculins sont soit des personnages secondaires, soit des faire-valoir. Il y a très peu de personnages masculins. Les personnages féminins sont traités, alors là je rentre un petit peu plus dans le dessin, mais ils sont traités vraiment différemment, que ce soit Marios ou Nan Mora qui prennent en charge les personnages. On commence avec le dessin des Marios qui est beaucoup plus souple, fluide. On a un côté un petit peu plus lâché. Il y a un côté un peu crayonné. C'est pas sans être péjoratif. Il y a un côté pas fini en fait, un côté encore un peu rough sur son dessin qui fonctionne bien en termes de couleurs. Et puis on se retrouve avec des personnages sous la plume de Nan Mora qui ont des physionomies qui sont complètement différentes et dont les caractères sont peut-être parfois un petit peu plus tranchés. Alors il y a dû y avoir pas forcément un reboot, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux, et vous verrez qu'il y a des variations visuelles qui sont intéressantes. J'aime beaucoup le design de Lucifer sous le crayon de Dan Mora, mais le personnage qui s'appelle la Catin que vous découvrez la première fois sous les traits de Marios, je trouve qu'elle a un côté beaucoup plus flippant de ce côté là et c'est vraiment très très intéressant. Le dessin de Dan Mora, si vous ne connaissez pas, on est sur un dessin qui est extrêmement précis, très détaillé, très pointu. Alors dans la veine comics, hein, ça fonctionne vraiment vraiment bien. Et il y a quelques passages où il s'amuse avec des directions artistiques un peu particulières, et ce qui fonctionne vraiment vraiment très bien. Même si c'est un dessin qui est plus pointu que celui des Marios, mais qui est beaucoup plus, on va dire, classique dans le traitement, malgré un talent indéniable.
C'est un gros volume, hein, de près ou plus de 400 pages que nous offrent là les éditions Glénat dans leur collection comics, et pour un prix un petit peu modique puisqu'on est sur environ 35 €, et ça marche très très bien. Moi je vous conseille cet univers que je ne connaissais pas, qui fonctionne très très bien. Les personnages sont accrochants, on a un mix, alors c'est ce que dit Glénat, entre Buffy et puis Lara Croft. Moi je dirais plus un mix entre, je sais pas, pour rester dans le domaine du comics, entre Constantine et puis un petit côté Witchblade peut-être, mais vraiment une belle découverte. Je leur donne la référence, Exed Omnibus aux éditions Glénat Comics, scénarisé par Michael Alan Nelson et dessiné par Emma Rios et Dan Mora. Après cette courte chronique, je vous propose une dernière pause musicale, la dernière de la journée, avec Les Yeux Noirs, une reprise de Django Reinhardt par Pomplamoose, en compagnie de The Vines Rooftop Revival. Vous allez voir, ça swing plutôt pas mal.
Tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Alors chant est sourd. Je perds la raison à chercher tes bras brûlants de passion. Viens, embrasse-moi de tes grands yeux noirs. L'étrange lumière animée le soir de tous les mystères. We'll be right back. sais pas où va notre histoire. C'est pour ma passion, les yeux noirs, que j'ai fait cette chanson. Oh, Chichéonier.
Radio G, 101.5 FM.
C'était Les Yeux Noirs, une reprise de Django Reinhardt, faite par Pomplamoose, featuring The Vines Rooftop Revival, comme on dit en anglais. J'espère que ça vous a plu. Et on enchaîne avec la dernière chronique de ce soir. Toujours dans le surnaturel, il s'agit de L'Agent tome 1, Initiation, toujours aux éditions Glénat, dans la collection Grindhouse Stories. C'est scénarisé par Mathieu Gabella, dessiné par Fernando Danino et décolorisé par Carlos Morote. Là, on est sur quelque chose qui est un mélange d'univers. Alors, la collection Grindhouse essaie de faire la part belle aux séries B. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus construit, puisqu'il s'agit d'un mélange entre la sorcellerie et les services de renseignement. On suit un personnage qui s'appelle Raim, je sais pas très bien le prononcer, et qui est agent de renseignement. Et lors d'une poursuite, elle va se retrouver face à quelqu'un qui va tuer son indique. Elle le poursuit et comme par magie, la station de métro dans laquelle se trouvaient toutes les personnes semble sombrer dans la folie. Rim est la seule en fait à ne pas succomber, on va dire, à cette. Et Rim semble être la seule à ne pas avoir été affectée par ce qui ressemble à une expérience magique, et elle est la seule à conserver son intégrité, ses mouvements. Même par rapport à ses collègues qui la suivaient et qui sont toujours dans l'oreillette, et elle est la seule qui va conserver ses souvenirs. Elle va faire la rencontre alors d'un homme qui dit travailler pour un des services de renseignement français, et elle va découvrir que ces services de renseignement ne sont pas juste des services de renseignement, mais également des services de contre-espionnage magique qui utilisent la sorcellerie. Alors c'est là où c'est très très intéressant, et c'est là où on voit le talent de Mathieu Gabella, c'est cette capacité à faire interagir deux univers complètement différents, mais à les mettre en cohérence et à rendre le tout très très vivant et très intelligent. La sorcellerie qui est utilisée dans cet album, c'est une sorcellerie qui ne fait pas dans les grands effets. Il n'y a pas besoin d'effets visuels, de grosses explosions ou de sorts absolument fous. Ce sont des choses assez basiques, même si certains aspects de ces sorcelleries sont d'une efficacité assez extrême, comme pourra en faire les frais l'équipe de Rim. Tout est réuni pour que ce soit une série qui fonctionne comme sur un rythme de série policière ou télévisuelle, en regardant cet aspect cinématographique, avec une gestion du rythme, des rebondissements, une découverte vraiment hyper intéressante et constructive de cet univers surnaturel auquel l'héroïne ne s'attendait pas, et tout est fait pour nous initier, nous prendre par la main et nous faire découvrir en même temps que l'héroïne cet univers. Le dessin est très 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 agréable. On est sur quelque chose d'assez détaillé. On fonctionne sur des tons brun, marron, gris qui donnent une ambiance assez assez angoissante, assez oppressante. Les personnages sont plutôt charismatiques. On a vraiment des personnages bien découpés qui sont assez présents, sans forcément tomber dans la caricature. On a beaucoup d'ambiance, notamment dans la première scène où on voit une infiltration et un suivi de la part de Rim. On a vraiment cette impression de foule, on a vraiment cette impression globale d'oppression et de stress que peuvent avoir les agents lorsqu'ils sont en mission, et ça rend vraiment les choses hyper intéressantes, ce qui fait qu'il y a un gros travail sur le cadrage, il y a un gros travail sur les personnages, et du coup c'est vraiment bien fait. On a vraiment une symbiose du dessin et du scénario qui font que tout va dans le sens d'une petite pépite. Moi j'avoue que j'ai été bluffé. Pour comparer, là je vous parlais tout à l'heure d'Exde qui faisait de la magie, là on a de la magie avec des effets spéciaux. Là la magie elle est très très basique et très froide. La sorcellerie, il n'y a pas de gros pouvoir magique. On va pas planter un couteau à un endroit et puis il y a un tourbillon de lumière et un truc qui apparaît. Et on plante un couteau, il y a un truc qui apparaît. Et il n'y a pas de. Il n'y a pas d'abracadabra, il n'y a pas de porte de perlimpinpin qui vient s'ajouter à ça, et ça rend l'atmosphère de cet album d'autant plus efficace. Ce qui en fait vraiment quelque chose de très intéressant. Là où je suis assez content, c'est que la couverture arbore un petit 1, ce qui fait que c'est forcément le premier d'une série, et que je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à retrouver le personnage de Rhyme dans cet univers qui fonctionne bien et qui réservera sans doute beaucoup de surprises. Là on voit, c'est un tome d'introduction, mais du coup on a déjà quand même pas mal d'infos, pas mal de choses qui sont mises en place, et on peut imaginer de nombreuses histoires. Alors soit une histoire au long cours avec un fil rouge que j'ai pas vraiment décelé dans ce tome 1, soit plusieurs histoires séparées, toujours avec des cadres d'enquête un peu comme dans une série policière qu'on peut voir. Mention spéciale quand même à la couverture qui est hyper agréable à regarder. On a une couverture sur un ton un peu crème avec des rehaussés de vert, et on a le personnage de Rhyme qui est en position dynamique avec l'arme au poing, qui regarde fixement face à soi, et dans les ombres en fait de ses vêtements il y a tout un tas de symboles ésotériques et de personnages qu'on va pouvoir retrouver dans l'album, et du coup ça donne vraiment vraiment envie, avec cet aspect un petit peu vieilli de la couverture comme on su le faire certaines éditions, et qui fait que ça a beaucoup été repris. Voilà, je redonne les différentes infos. Il s'agit de L'Agent, tome 1, Initiation. C'est de Mathieu Gabella et Fernando Danino au dessin, et les couleurs de Carlos Morote. Et c'est aux éditions Glénard dans la série Grindos Stories. Et c'est vraiment, vraiment sympa. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres titres. Je me rends compte en le disant que j'ai beaucoup parlé de Glénard. Hein. C'est bien sûr totalement fortuit. Je ne suis pas subventionné par Glénat pour faire la promotion de leurs produits. Je ne dis, comme d'habitude, que ce que je pense, et c'est pour votre plus grand bien. Et comme je le dis d'habitude, hein, profitez-en pour les lire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à nous en faire part, puisque c'est comme ça que ça marche aussi. On n'est pas là, on n'est pas parole d'évangile. Voilà, c'est tout pour L'Agent. Avant de finir cette émission, j'aimerais juste faire un tour d'horizon des différentes initiatives qui ont pu être proposées par les éditeurs ou par différentes plateformes pour pouvoir continuer à avoir les bons réflexes et à ne pas sortir de chez soi tant qu'on ne nous en donne pas l'autorisation et que l'on ne nous signale pas que le confinement est fini. Je vais commencer sans doute avec le plus important, c'est la plateforme Isneo qui propose d'avoir un mois gratuit aujourd'hui pour découvrir plus de 6000 albums à lire en illimité chez soi, ce qui peut quand même déjà permettre d'avoir pas mal de lectures. On a également les éditions d'Argo qui proposent des activités pour enfants avec des coloriages, la tête de Bill en origami, les mots croisés de Pico Box. Ce sont des choses qui peuvent être intéressantes. On a également un certain nombre d'albums issus de leur catalogue qui sont en lecture gratuite, des choses comme Mia et compagnie, le Detection Club dont on avait parlé, La Sardine de l'Espace, Anna Anna, Boulet Bill, Pico Bog, Le Monde de Milo, Long John Silver, La Marque Jaune, Murena, 13, Le Scorpion, et certainement d'autres à venir. On a les éditions Delcourt qui offrent de la lecture numérique également jusqu'au 30 avril. Il suffit de se rendre sur un e-libraire, une plateforme spécialisée en BD, créer un compte et puis ajouter les BD du choix, valider la commande et puis les albums seront disponibles sur votre compte en suivant les instructions de la plateforme. Là encore, ce sont des BD comme Les Légendaires, La Rose Écarlate, L'Île Berry, La Nef des Fous, Panique aux Zoos, dont on avait chroniqué il y a un moment, Les Mythics, des choses qui sont vraiment très très sympas pour un peu tout le monde. Le Grand Méchant Renard, si vous connaissez pas, mais alors allez-y, foncez, c'est vraiment génial. On notera également que certaines fiches d'activité sont fournies pour découvrir des choses sur le Louvre avec l'album Les Souris du Louvre, qui peut être vraiment très intéressant également. Et puis on a les éditions Glénat qui font donc il y a trois initiatives. Il y a Glénat Manga, donc c'est un jour un manga qui est disponible gratuitement pendant 48 heures. Je vous en parlais déjà la semaine dernière, on a eu les trois premiers tomes de One Piece par exemple, ce qui permet déjà d'avoir quelques heures de lecture. Qu'est-ce qu'ils ont fait il y a très longtemps? Il y a eu Ajin, Gun Last Order, Mon Prof Letteur Reborn, Les Gouttes de Dieu. Sur la partie comics, il y a 30 comics qui en version numérique passent à 50%, ce qui permet déjà d'avoir pas mal de lectures. Je suis en train de regarder, mais je sais même pas si on a The Wicked and the Divine qui est disponible. Lady Mechanica, ce sont des choses qui sont quand même hyper intéressantes. Et puis sur la partie BD, il y a 54 BD jeunesse qui sont également à moitié prix, 31 BD adultes et encore 38 comics. Alors ça fait pas mal de choses, mais ça fait beaucoup beaucoup de lectures et encore beaucoup de raisons de continuer à rester chez soi et à lire tranquillement. Je vous ferai part de nouveautés la semaine prochaine si nous sommes toujours en confinement. Je pense qu'on est encore parti pour une semaine. Allez, ciao. Et oui, il est temps pour nous de se quitter. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Je compte sur vous pour continuer à lire. Il paraît que ça rend intelligent. Et je remercie encore ma fille et mon épouse Charlène pour leur collaboration. Et je laisse le mot de la fin à ma fille. Bonne soirée à tous.
À lundi prochain.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Oh, no.
fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Radio-g.fr.
À présent, la suite de nos programmes.